le naturalisme est la dernière ontologie, la dernière née des ontologies à partir du XVIIe siècle et puis définitivement au XIXe siècle. Et surtout, vous expliquez que s'agissant de la figuration, c'est antérieur au XVIIe siècle. Et c'est ce qui m'a fortement surpris, en fait, que certains artistes, comme Dürer, dites-vous, ont été aux avant-postes de la révolution ontologique du naturalisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué là? Parce que c'est une surprise, mais effectivement, après, une fois qu'on le lit sous vos phrases, on comprend que, ben, oui, effectivement, les artistes avaient déjà développé une figuration naturaliste avant même qu'il y ait un corpus théorique, philosophique, scientifique, bien entendu, qui permette la pleine expression de ce mode ontologique.
Ça m'a frappé en regardant les images, tout simplement, c'est-à-dire celles qui commencent à être produites à partir du début du XVe siècle, dans les pays du Nord en particulier, et qui s'attachent beaucoup plus qu'auparavant à figurer le monde dans toute sa diversité. Les images de l'iconographie médiévale, pour l'essentiel, ce sont des images symboliques, c'est-à-dire elles visent à montrer des situations assez souvent tirées de l'histoire sacrée ou bien des positions sociales, des histoires édifiantes, etc. Et l'attention à la singularité des personnes et à la singularité des décors n'est pas ce qui prime. Bien sûr, on a dès le XIVe siècle et même parfois auparavant, j'entends dans les images en deux dimensions, par exemple dans les grotesques, dans ces petites enluminures qui sont dans les marges des manuscrits, des figurations d'une extraordinaire précision de telle ou telle espèce animale. On a dans les enluminures aussi quelquefois des sortes de proto-paysages qui sont très précises. Mais l'obsession du naturalisme pour ces deux caractéristiques principales, hein, qui est la singularité des humains, c'est par rapport à tous les autres modes de mondiation, toutes les autres ontologies, le naturalisme insiste là-dessus. Les humains, du point de vue moral, sont complètement différents des autres formes de vie. Et donc, il y a une singularité humaine, il y a une singularité des individus à l'intérieur de l'espèce humaine. En revanche, ils sont, du point de vue de leur capacité physique, pas véritablement différenciés des autres organismes en particulier, même de certains éléments de l'environnement abiotique, parce qu'ils sont gouvernés par les mêmes lois de la physique, de la chimie, etc. Et donc, ce que le naturalisme dans les textes a commencé à expliciter à partir du XVIIe siècle, chez Descartes, chez Galilée, etc., c'est dans les images qu'on en trouve les premières traces à travers deux façons de à travers deux manières, enfin, à travers deux objets qui deviennent préférentiels dans la figuration, ce qui est la peinture de l'âme, c'est-à-dire la peinture de la singularité humaine. Dans l'art du portrait, on commence à voir des portraits absolument extraordinaires dès le début du XVe siècle. J'insiste beaucoup sur Robert Campin, qui est paraît être un artiste très, très novateur de ce point de vue-là, un flamand. Et d'autre part, le monde dans toute sa diversité, dans lequel sont inclus des humains et des non-humains, c'est-à-dire d'une certaine façon homogénéisé dans un même espace. Alors cette homogénéisation, elle peut se faire de plusieurs façons. Elle peut se faire, comme l'ont fait les artistes du Nord, par une attention, et notamment Robert Campin, mais aussi Van Eyck par exemple, dans une attention minutieuse aux détails, à figurer de la façon la plus illusionniste possible chaque élément du monde, les reflets du cuivre, la bigarrure des étoffes, les éraflures du bois, etc., que personne ne s'intéressait à figurer auparavant. Donc, rendre compte du monde tel qu'il est, de la façon la plus exhaustive possible, tout en maintenant, puisque la plupart de ces peintures du XVe siècle, c'est précisément, si on accepte Dürer, ou Altdorfer par exemple, sont des peintures religieuses, et donc la dimension symbolique continue à jouer un rôle. Mais au-delà, au fond, de la scène sacrée, ce qui importe beaucoup à ces peintres, c'est de figurer cette homogénéité du monde dans un espace continu. Puis l'autre façon de procéder, c'est celle des Toscans, c'est-à-dire c'est la perspective, c'est la construction d'un espace à partir d'un individu qui est donc subjectivement construit par un point de fuite organisé à partir de son regard, le monde à partir de procédés géométriques qui sont très efficaces pour donner l'illusion précisément ou l'émulation de la vision humaine. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans les images avant qu'on le trouve dans les textes, et qui donne aux imagiers cette fonction de voyant, en quelque sorte, qu'on a souvent souligné pour la peinture, et qui me paraît se reproduire au moment précisément où les formes géométriques, de construction d'espace visuel, disons, du naturalisme sont ébranlées avec le cubisme, parce que précisément on passe d'un point d'observation unique à un point d'observation multiple. Et à partir de ce moment-là, plus rien n'est semblable. Quelles que soient les différences que les historiens de l'art ont très bien décrites entre les différentes écoles, les différents peintres, etc., il y a bien sûr des pressentiments de cela chez Cézanne, chez Monet, dans le rapport à la planéité de la surface, des choses comme ça. Mais tout d'un coup, avec les cubistes, ça devient évident, hein, c'est-à-dire que on s'attache à représenter un être ou des choses en adoptant sur cet être ou ces choses des points de vue différents qui vont complètement fragmenter la figure, etc. etc. Donc là, il y a quelque chose qui se passe et qui annonce un monde en gésine, un monde qui est en voie de constitution et qui signale les arts du naturalisme, je crois. On n'y est pas encore complètement, hein, dans ce monde, mais je pense que alors je ne sais pas si on prend ça par tranche de deux siècles, puisque c'est entre le début du XVe et le début du XVIIe, disons l'essai de Galilée sur les deux systèmes du monde, disons, on a un peu plus de deux siècles. Alors si on prend les cubistes, il faut attendre encore à la fin de ce siècle pour qu'on ait une idée plus claire au fond du nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, encore qu'on en a on commence à en avoir des pressentiments, hein, c'est-à-dire les philosophes, les sociologues, les anthropologues, les écrivains et justement les artistes en donnent un avant-goût, si je puis dire. Mais les artistes peut-être, vous imaginez, de façon beaucoup plus vibrante que les intellectuels, que les hommes d'écriture, que les hommes du discursif, ou les femmes bien sûr, du discursif, puisqu'il a fallu attendre quand même les dernières décennies du XXe siècle pour qu'on s'aperçoive que le grand récit de la modernité était en voie d'épuisement.
Est-ce que vous exprimez, Philippe Descola, c'est tout ce que nous allons maintenant parler en conclusion, parce que c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que votre livre, en plaçant la figuration sous le mode naturalisme tout à la fin, C'est pas pour dire que c'en est l'apothéose de la figuration du tout, et ça vous l'expliquez bien pour vous en prémunir. Mais c'est qu'en fait on comprend, et c'est, je l'avais pas du tout non plus envisagé de la sorte, c'est que c'est le dernier mode ontologique qui est né chronologiquement. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'on est tellement baigné dedans, nous, en Occident, qu'on ne comprend pas, en fait, l'histoire de notre mode ontologique. Et c'est quand même absolument fondamental de se dire que c'est un mode qui n'a que quelques siècles. Il a été extraordinairement puissant, il a conquis toute la planète, et le terme « conquérir » et « adapter », c'est vraiment une conquête, si bien que la majorité des humains en nombre ont adopté ce mode naturaliste, donc qui a eu un succès phénoménal, planétaire, hein, et on comprend qu'en fait c'est le nouveau-né, quoi, c'est quelque chose de récent. Et alors, si on croise vos travaux, Philippe Descola, avec ceux de Bruno Latour, qui est votre ami, et c'est des travaux conjoints, Bruno Latour est souvent qualifié de sociologue, mais je trouve que c'est une aberration, c'est un anthropologue de la modernité, en fait. Et donc c'est là où vous rejoignez tous les deux, vous serez le grand anthropologue des modes ontologiques, et Bruno Latour serait le grand anthropologue des modernes. C'est quand même incroyable que vous habitiez tous les deux Paris, que vous soyez tous les deux français. Enfin, je veux dire, il y a à un moment donné une concomitance, et que vous soyez né à quelques années d'écart. Enfin, c'est quand même une parallèle et un croisement, puisque vous êtes fantastiquement amis tous les deux, de se dire, voilà, avec vous et Bruno Latour, on a le système complet, c'est-à-dire qu'on comprend que notre mode est un mode, déjà, que c'est un mode ontologique, que c'est pas un absolu. Or, on s'est conçu les Occidentaux comme étant un absolu. On s'est dit, c'est nous qui avons forcément raison, c'est nous qui détenons la vérité. Donc on comprend avec vous que c'est un mode parmi trois autres, enfin, en tout ça fait quatre modes. On comprend par Bruno Latour qu'on a une anthropologie de la modernité, de ce qu'est être un humain moderne. Et ça, c'est son enquête sur les modes d'existence qui est parue en 2012. Enfin, il faut comprendre quand même que par-delà nature et culture, c'est 2005. Et l'enquête sur les modes d'existence, donc une anthropologie des modernes de Bruno Latour, c'est 2012. Enfin voilà, on est très resserré au niveau des dates. Vous venez de parler un peu du futur, en parlant du futur de la représentation sous un autre mode, peut-être, parce que quand on lit vos travaux sérieusement et qu'on essaie d'en tirer les conséquences, et qu'on fait de même avec ceux de Bruno Latour, on se dit, notre mode naturaliste, notre mode de moderne, c'est celui qui a créé la catastrophe climatique et écologique, et que donc il va falloir changer d'ontologie. C'était les perspectives que vous ouvriez, en disant que c'est peut-être les artistes qui sont déjà, eux, en train de changer la représentation, la figuration, et nous entraîner peut-être vers un autre mode. Mais c'est la question fondamentale qu'on se pose actuellement dans l'époque à laquelle on vit, celle de la catastrophe climatique et écologique. Quelle va être la nouvelle ontologie qui va nous permettre de faire autrement? Parce qu'on ne peut plus rester des modernes naturalistes, sinon on comprend par la climatologie qu'en 2100, il va y avoir plus 4 degrés général sur la planète et que ça va être tout simplement invivable, quoi. Donc, quelles sont les perspectives? Alors, vous ne les avez pas, bien entendu, parce que votre génération, celle de Bruno Latour, vous avez déjà fantastiquement établi toutes ces bases qui nous permettent de comprendre cela. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de complètement nous décentrer, alors qu'on était tellement humano-centré avec notre mode naturaliste de moderne.
C'est la grande question du siècle. Hein. Et donc, si j'avais la réponse, je me serais empressé de la crier sur les places publiques ou sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas, malheureusement. Je pense que ce qui compte, et Bruno Latour et moi partageons cet avis, c'est d'avoir un diagnostic précis sur la question. Alors lui, ce diagnostic, il le tire du projet qu'il est en train de mener, qui est d'une part l'étude des zones critiques, c'est-à-dire l'accompagnement de scientifiques qui examinent certaines parties de la pellicule terrestre en essayant de comprendre ce qui s'y passe véritablement, c'est-à-dire en étudiant de façon très très fine des interactions au sein d'écosystèmes limités. C'est aussi le projet qu'il a de l'étude des des descriptions que les gens, ce qu'il appelle les cahiers de doléances, des situations dans lesquelles les gens se trouvent. Mon approche à moi, elle est différente. Elle est celle d'un anthropologue qui est passé par des très longs terrains et dans des sociétés très différentes de la nôtre. C'est d'essayer de comprendre dans le trésor d'expérience que ces populations très différentes de la nôtre nous ont livré. Et il suffit, historiquement d'ailleurs, on ne remonte pas très loin, et géographiquement, ces populations continuent d'exister. Et de comprendre au fond les différentes alternatives possibles, de manière à comprendre beaucoup mieux ce qui nous conduit à l'abîme. Et de plus en plus, je suis persuadé qu'il n'y a pas de solution toute simple, comme celle que j'envisageais quand j'étais un jeune homme militant, et que, la solution léniniste classique du parti de masse conduisant à la prise du pouvoir et au dépérissement de l'État, c'est une chose en laquelle j'ai cru à une certaine époque, mais dont on voit bien qu'elle n'a plus aucun avenir. Donc il faut essayer d'imaginer des choses qui n'ont jamais été tentées. Et ce que je n'envisage pas de réponse simple à cela, mais plutôt à une multiplication des expériences, dont certaines auront valeur exemplaire, d'autres liées au fond à peut-être des institutions supranationales qui rendent nécessaire, elles existent déjà, hein, je pense bien sûr au GIEC, aux différentes COP, la conférence des partis, à l'équivalent pour la biodiversité, etc. C'est intéressant parce qu'au fond, ce sont des scientifiques qui ont pris l'initiative, soutenue évidemment par certains États, et qui décrivent des trajectoires d'évolution et, bien qu'avec beaucoup de prudence, des façons d'échapper, sinon d'échapper, puisqu'on n'y échappera pas, mais d'essayer de ralentir, au fond, la course à l'abîme. Et des mécanismes de ce type-là sont importants, mais ils doivent être soutenus aussi par les mains. Donc j'envisage une très grande diversité de formes d'action et d'organisation politique, un peu analogue à celle qui a caractérisé au fond notre passé il n'y a pas si longtemps, en Europe ou dans d'autres régions du monde. En Europe, jusqu'à la paix de Westphalie, on avait des formations sociales extrêmement diverses, on avait des empires, des multinationales comme Venise, ou Gênes, des royaumes, des principautés, des communes libres, des communes démocratiques et d'autres aristocratiques, etc., etc. Donc d'autres multinationales comme la Ligue hanséatique. Donc une très très grande diversité d'expressions politiques, assez souvent en conflit les unes avec les autres. Ce monde-là, au fond, a disparu avec la prééminence de l'État westphalien. Mais je pense qu'il n'est pas impossible qu'on revienne dans un monde de ce type-là, c'est-à-dire beaucoup plus divers. Je ne sais pas s'il est plus souhaitable que le monde actuel, mais je pense que c'est ce vers quoi nous dirigeons. Et à l'intérieur de ce monde, il y a deux possibilités de surmonter les impasses. D'une part, encore une fois, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à Notre-Dame-des-Landes et aux Andes en général, c'est donc des communes libres qui tournent le dos, au fond, à plusieurs siècles de développement capitaliste et de, d'intérêt pour l'accumulation, pour le profit, etc., etc., d'un côté, et de l'autre à des mécanismes qui pourraient être, implémentés à l'échelle internationale de façon à rendre d'autres formes d'alternatives possibles. Mais je ne vois pas de masterplan, hein, je ne vois pas ni révolutionnaire, ni d'un gouvernement des savants d'ailleurs non plus. Cela dit, c'est probablement parce que nous sommes précisément de... Moi je suis comme Bruno Latour, nous sommes d'une génération différente de celle de tous les jeunes chercheurs et intellectuels qui sont en train de discuter de ces questions maintenant, qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années pour certains, et qui sont fourmillants d'idées. Donc de ce point de vue-là, j'ai une très grande confiance dans la capacité d'une génération plus jeune. Bien sûr, il y a toute la génération, disons, Greta Thunberg, Extinction Rebellion, etc., qui agit contre et qui témoigne au fond d'une prise de conscience d'une génération, en Europe en tout cas. Mais il y a aussi une génération de penseurs qui est en train de faire bouger les lignes. Il y a un grand fourmillement de ce point de vue-là intellectuel que je suis avec beaucoup d'attention va peut-être coaguler d'une façon ou d'une autre dans les années à venir.
Oui, effectivement, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, c'est un fourmillement généralisé. Enfin, je crois qu'on peut le constater dans les publications.
Absolument.
Et que tous ces chercheurs ou ces chercheuses sont en train d'écrire le même livre. Et alors, on pourrait peut-être imaginer que vous, Philippe Descola, vous seriez l'expert en anthologie, puisque c'est votre principal travail. Et si on imagine qu'on vous pense en tant qu'expert en anthologie, on comprend qu'il va nous falloir changer d'anthologie, que notre anthologie naturaliste date des modernes, elle est vouée au suicide collectif. Enfin, elle ne va pas pouvoir nous continuer à faire vivre longtemps et qu'il faudrait changer d'anthologie. Et se pose du coup la question, mais c'est sans doute celle de tous les chercheurs et chercheuses actuellement, comment est-ce qu'on peut modifier une anthologie si ce n'est la transformer, si ce n'est surtout en inventer une nouvelle en fait. Et là, vous comprenez qu'on puisse se tourner vers vous si on imagine que vous êtes un expert en anthologie. Comment inventer une nouvelle anthologie puisque vous avez tout de même... Enfin, c'est votre grand travail, c'est d'avoir analysé les quatre grandes ontologies humaines, d'en avoir fait système, de les penser, de les faire entrer en correspondance. On a envie de se tourner vers vous, l'expert en ontologie, pour en inventer une cinquième.
Alors, là encore, si je savais, je l'aurais dit. En revanche, ce que je peux dire, c'est... j'ai écrit un livre qui s'appelle « La composition des mondes » avec Pierre Charbonnier, qui est un livre d'entretien. Et je crois vraiment, je pense que c'est une idée qui est aussi partagée par Bruno Latour, que les mondes ne se décrètent pas, ils se composent petit à petit avec des éléments qui sont déjà présents, au fond. On ne les invente pas non plus, ces éléments. Et donc il s'agit de recomposer des éléments qui existent sous une forme différente. Alors, cette recomposition, si on me poussait dans mes extrêmes, je dirais qu'elle pourrait peut-être prendre la forme d'un analogisme renouvelé, puisque le naturalisme étant une parenthèse dont il serait hâtif de dire qu'elle est terminée. Je pense que nous sommes encore très naturalistes et que nous allons demeurer pendant pas mal de temps. Mais ce que je vois, c'est que dans différents domaines, notamment dans le domaine scientifique, le naturalisme dont, justement, Bruno Latour disait qu'il n'existait pas, c'est l'un de nos rares points de désaccord, c'est qu'il est une construction d'épistémologie, au fond. Je pense que moi qu'il existe, mais que sa décomposition dont on commence à voir les les manifestations les plus visibles, est un moyen de penser à la manière de le recomposer. Peut-être que le naturalisme a été une exception dans l'histoire de l'humanité, ou aura été si on regarde cette époque, si on se projette dans un futur à plusieurs siècles et qu'on jette un regard rétrospectif, hein, c'est rien du tout les quelques siècles du naturalisme à l'échelle de l'histoire de non seulement de l'humanité mais de la Terre, puisque c'est ça qui compte aussi. Hein. C'est pendant la toute petite période dans laquelle il y a eu coïncidence de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la Terre. C'est pas que le naturalisme n'aurait pas pu exister ailleurs. Il aurait peut-être pu apparaître, je pense, dans le monde chinois, peut-être dans le monde grec, ancien bien sûr, peut-être dans l'islam médiéval, dans le monde arabo-musulman médiéval. Mais pour différentes raisons, ça ne s'est pas produit. Ça s'est produit historiquement plus tard. Et donc, ce qui caractérise le naturalisme, à savoir le fait que les humains se sont exaucés au-dessus du cosmos, du
monde, toute-puissance humaine.
La toute-puissance humaine. Dans l'analogisme, les humains sont fragmentés. Ils sont fragmentés tant du point de vue physique que du point de vue de leur dimension morale, en quelque sorte. Et le grand défi, c'est que l'analogisme tient avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dispositifs hein, qui le structurent, en particulier la hiérarchie. La hiérarchie est un aspect central de l'analogisme. Il existe dans toutes les formations sociales et culturelles analogistes, et cette forme de hiérarchie nous est évidemment devenue, bien qu'elles n'ont pas disparu dans le naturalisme, elles nous sont devenues insupportables en tant qu'hiérarchie statutaire. Ce sont des hiérarchies dont on essaye d'imaginer qu'elles sont conjoncturelles, elles sont liées évidemment à des inégalités de richesse, à des inégalités d'expression politique, à des inégalités entre les nations, mais que rien dans le système, au fond, ne les justifie. Il faut lutter contre l'inégalité, etc. etc. Mais le défi, au fond, c'est d'imaginer un monde analogiste dans lequel on ait des dispositifs structurants qui ne soient pas fondés sur les anciens dispositifs structurants qui caractérisaient, au fond, les formes sociales et politiques de l'analogisme, dont un exemple contemporain parfaitement évident est la Chine. Nous ne voulons pas être comme les Chinois, enfin je pense, pour beaucoup, en tout cas en Europe et dans une partie du monde moderne. Donc comment intégrer ces disparités ou ne pas les intégrer d'ailleurs, ou les faire coexister. Donc je vous parle en roue libre, si je puis dire, mais je pense que ça va être l'un des grands problèmes qu'il va nous falloir résoudre dans les décennies qui viennent.
Merci beaucoup, Philippe Descola.
Merci à vous.